Chapitre 10. Cependant, Sir George et Sir William, en arrivant à Saint-Philippe d'Argyre, ne manquèrent pas de faire grand bruit de leur mésaventure. Ils commencèrent par s'installer dans une osteria et par y arborer à leur fenêtre le pavillon d'Angleterre, comme si leur bagage enlevé eût été le cas d'une guerre européenne. Cette énergique démonstration amusa les habitants du bourg, qui vinrent considérer le drapeau déployé, mais il n'en résulta pas d'autre effet. La maréchaussée de l'endroit refusa de courir après les voleurs, de peur de mauvaises rencontres. Elle conseilla sagement aux deux voyageurs de prendre patience et d'aller en pèlerinage remercier Sainte Rosalie de Palerme de leur avoir sauvé la vie par grâce particulière. Les autorités avaient fermé leur bureau à l'heure de l'Angélus et remirent au lendemain le procès-verbal en souhaitant aux seigneurs anglais le Felicissima Notte. Sir George et Sir William eurent beau crier, on ne les écouta point. C'est pourquoi ils changèrent leur batterie. Il y a de Catane à Messine une grande route en bon état avec service de poste. Un express largement payé partit avec une lettre pour le consul d'Angleterre et se rendit à Lerchireale où l'attendit le courrier de nuit qui le conduisit à Messine en 9 heures. Le consul anglais renvoya l'express avec du linge, des habits et quelque argent, puis il courut à l'intendance demander justice. Le gouverneur militaire fut appelé. Il promit de faire poursuivre à outrance les malfaiteurs. Le courrier de jour rapporta l'ordre de détacher les garnisons de Catane et d'Augusta, 2 pelotons d'infanterie légère et de les expédier sur Saint-Philippe et Leonforte pour y cerner Don Polyphème et sa bande. Le receleur de Stilla, en se rendant à Taormine, dans le dessein de passer en Calabre, afin de dépayser un peu les objets volés, rencontra l'un des détachements militaires à l'entrée des montagnes et rebroussa chemin aussitôt pour avertir ses bons amis du danger qui les menaçait. Ciccio et Cangia vivaient depuis 2 jours chez un bûcheron des environs de Leonforte, parmi des voleurs bienveillants et dans les sites les plus pittoresques du monde. La puissance du moment présent est grande sur les organisations méridionales, et nos amants avaient oublié qu'il existait des notaires, des juges et une Syracuse, tant le plaisir d'être ensemble absorbait leurs pensées. Don Polyphème et Barbara souriaient de leurs amours naïves, et comme le seigneur capitaine ne parlait plus de renvoyer la jeune fille à son père, les deux amants se croyaient réunis pour toujours. La troupe entière des brigands s'endormait dans les délices de Leonforte, lorsque le receleur de Stilla vint annoncer que l'infanterie légère n'était qu'à 6 lieues de marche. À cette nouvelle, aucun signe d'altération ne parut sur le visage de Don Polyphème. Le capitaine se promena de long en large, il vida une fiasque de vin noir, caressa le manche de sa carabine, et se donna un coup de poing sur le front. Ce fut assez pour faire sortir de sa cervelle un projet hardi, comme Minerve tout armée sortie du crâne de Jupiter. Le brigand fit retentir son sifflet pour assembler ses amis. « Seigneurs cavaliers, leur dit-il, notre crédit et notre fortune dépendent de la conduite que vous allez tenir. » Il serait insensé de livrer un combat à un ennemi nombreux et mieux armé que nous. Mais avant de fuir et de nous disperser comme des poltrons, il faut nous montrer aux soldats royaux et braver en face, leur laisser la persuasion que l'enfer nous protège et que nous échappons par des moyens surnaturels. Si nous réussissons, un jour viendra où ma seule présence à votre tête est la seule vue de la chèvre jaune, dont la réputation est déjà grande, suffiront pour mettre en déroute les détachements d'infanterie et pour les dégoûter de venir dans ces montagnes. Je vais m'entretenir à ce sujet avec le vaillant Chichio. Mais d'abord, il faut nous défaire des femmes en les envoyant loin du danger. « Maman !» s'écria la vieille Barbara. « Je ne crains pas les fusils des Carthaginois. Vous pouvez vous servir de moi pour vos projets, aussi bien que de la chèvre jaune. » « Vous avez raison, dame Barbara, » reprit le bandit. « On vous prendra volontiers pour une sorcière. Quant à la divine fille de Bastandrée, elle va partir immédiatement pour Syracuse où son papa l'attend avec impatience. Elle servira nos intérêts et les siens en répandant quelques petites histoires merveilleuses sur sa fuite, sur son séjour parmi nous et son retour à la maison paternelle. La chèvre infernale lui sera un sujet inépuisable de récits. Ce sera sur le dos de cette bête prodigieuse qu'elle aura voyagé, en sorte que Master Drey n'osera point lui faire de reproche. Kanjia voulait rester près de son ami et courir les mêmes hasards que lui. Chichio pleura de douleur en suppliant Don Polyphème de lui laisser sa maîtresse. Mais le chef imposa silence aux amoureux et leur promit que bientôt ils s'occuperaient de faire leur bonheur en les mariant. Cette assurance de la part d'un homme si ferme et si puissant apaisa les cris et les sanglots. Kanjia embrassa son amant, monta sur un âne et partit pour Syracuse, accompagné d'un paysan qui lui servit de guide. Après le départ de la jeune fille, le capitaine tint conseil avec Chichio et Barbara. Il daigna leur confier son projet, et pour animer leur courage, d'où dépendait le succès de l'entreprise, il leur cita quantité d'exemples héroïques tirés de l'histoire ancienne, dont il était fort pénétré, comme le lecteur l'a pu voir. Il estropia les noms d'Horatius Coclès, de Sévola et de Cynégyre. Il confondit ensemble les siècles, les nations et les pays. Mais comme il n'y avait pas là de savant capable de relever ses fautes, il atteignit son but en inspirant à ses auditeurs l'envie de se signaler par l'intrépidité. Quelques rasades de Calabrese et de Marscatel achevèrent d'exalter Chichio et Barbara, et les brigands se mirent en marche avec confiance pour exécuter le plan conçu par Polyphème. Sur la route qui descend de Leon Forte à Saint-Philippe d'Argyre était alors un vieux reste de château fort qui ressemblait de loin aux débris d'un pâté. On l'a fait sauter depuis par une mine. Le sommet en était masqué par des arbres en certains endroits et découvert en d'autres parties. 10 hommes y pouvaient tenir aisément et s'y cacher ou se montrer à volonté, de façon à défendre le passage avec avantage contre des troupes nombreuses. C'était ce lieu escarpé que Don Polyphème avait choisi pour théâtre de ses exploits. En abattant avec la hache des roses, des cactus et des aloès, en attachant des cordes à certains troncs d'arbres, on parvint à escalader cette citadelle et on se ménagea en même temps un moyen de retraite précipité que le feuillage et les broussailles dissimulaient. Le sergent d'infanterie légère, qui conduisait un peloton de 16 hommes, montait avec précaution dans le lit d'un torrent desséché, en se faisant précéder par un guide et des éclaireurs. Tout à coup, une balle perça son shako et 3 de ses voltigeurs tombèrent blessés à la tête. Un nuage de fumée qui couronnait la redoute des brigands indiqua d'où partait le feu, et le sergent vit, au sommet du bloc de pierre, la chèvre jaune et son maître dansant une salterelle infernale, tandis que Barbara jouait du tambour de basque en faisant des gestes d'énergumène. Le sergent riposta par un feu de peloton. Mais on sait que les soldats napolitains, gênés par l'émotion du combat, ne tirent juste qu'à la cible. La plupart des voltigeurs, persuadés qu'ils avaient affaire à des diables, détournèrent la tête en pressant la détente du fusil. De sorte que Ciccio et Guetta poursuivirent leur danse, et la vieille Barbara sa musique, comme s'ils eussent donné une représentation sur la grande place de Catane, ce qui prouvait clairement qu'ils étaient tous trois invulnérables. Une seconde décharge, partie du sommet de la redoute, abattit encore deux fantassins. Le désordre, eux, se mit dans les troupes royales, et les soldats se débandèrent pour chercher un abri derrière les arbres qui bordaient le lit du torrent. Cependant, le sergent, en homme de cœur, resta sur le terrain. Il ajusta la vieille Barbara, et après avoir tiré, il mit une main sur ses yeux en guise de visière, certain que le coup avait porté. Le sergent devint pâle. La sorcière continuait à danser avec son fils et la chèvre jaune, en poussant des rires forcenés. Les troupes allaient battre en retraite, lorsqu'on entendit un feu vif de mousqueterie. C'était le détachement d'Augusta qui attaquait les brigands par un autre côté. Une voix de stentor cria « Sauf qui peut !» Les bandits se laissèrent glisser le long des cordes et disparurent sous les broussailles. En un moment, la bande entière s'évanouit, et Ciccio, sa mère et la chèvre jaune se trouvèrent seuls au sommet de la redoute. Le coup de feu du sergent avait atteint Barbara au milieu du corps. Dans l'exaltation du combat, la vieille montagnarde n'avait qu'à peine senti la blessure. Après la fuite des brigands, Ciccio vit bientôt Chavert chanceler, s'affaisser sur ses genoux et tomber la face dans les bruyères. Il essaya de la soulever entre ses bras sans pouvoir y réussir. Les membres avaient déjà cet abandon et cette pesanteur que donne la mort. Barbara ouvrit encore une fois les yeux, mais son regard pénétrait dans un monde nouveau, et ses lèvres frémissantes laissèrent échapper, avec le dernier soupir, quelques mots incohérents de la chanson de Syracuse ravagée. Le petit chevrier, assise à côté de sa mère, demeurait immobile, refusant de croire à l'horreur de sa situation, lorsque Don Polyphème accourut tout hors d'haleine. « N'en doute pas, dit le brigand, Barbara est au ciel, puisqu'une balle étrangère l'a frappée. Faut pas qu'elle tombe dans les mains des infidèles. Allez, arme-toi de courage et suis-moi. » Le capitaine enleva le corps de la défunte, le chargea sur ses épaules et descendit à reculons en se tenant à une corde. Un groupe épais de cactus qui se trouvait à mi-côte du rocher lui fournit une cachette sûre où il déposa le cadavre en l'introduisant par force au milieu des épines. Quelques feuilles sèches ramassées à la hâte complétèrent cette tombe improvisée. Don Polyphème déposa sur la poitrine de la morte deux petits bâtons en forme de croix, et il appela trois fois Barbara. Puis il ajouta à voix basse, « Elle ne répond point, elle est partie. Seigneur, recevez son âme. » Le bandit saisit Ciccio par la main et l'entraîna en courant dans un ravin profond, où ils furent bientôt hors de danger. Mon fils, dit alors Polyphème, l'affaire a été grave. Il faut changer nos dispositions. Tandis que je rechercherai les débris de la bande, tu te rendras à Palerme par Nicosia, Ganji et Vikari. N'oublie pas cet itinéraire qui est le plus sûr pour nous. En arrivant à Palerme, où tu entreras de nuit, tu ne manqueras pas d'aller au quartier du Borgo, à l'auberge del Falcone. J'y serai dans 4 jours avec nos amis. Nous y ferons dire des messes pour le repos de Barbara. Les cloches mèneront son âme en paradis à grande volée. Ne crains rien pour elle. Veille à présent sur toi-même. Sois prudent. Ôte ces ornements dorés qui embellissent les cornes de ta chèvre merveilleuse, de peur qu'on ne la reconnaisse. Songe au Borgo, à l'auberge del Falcone, et moi, je m'en vais. Don Polyphème s'éloigna, laissant le pauvre Ciccio étourdi de son malheur. Des coups de feu lointains annonçaient que la chasse aux brigands n'était pas achevée. Le petit chevrier suivit machinalement le chemin que lui avait indiqué le capitaine, et il arriva le soir à Nicosia. Comme il ne savait à quelle auberge chercher un gîte, il se souvint de la lettre que lui avait donnée le bénédictin de Catane, et il se rendit au couvent des... dont il demanda le père supérieur. Tandis que le saint homme prenait lecture de la lettre, Ciccio, qui le regardait avec crainte et respect, vit la figure austère du moine se contracter douloureusement et ses sourcils gris se rapprocher l'un de l'autre. « Mon enfant, dit le vieillard, cette lettre a 8 jours de date. Qu'as-tu fait pendant cette semaine ?» Le petit chevrier raconta naïvement son voyage à Saint-Philippe, son enrôlement parmi les bandits et la catastrophe qui venait de lui enlever sa mère. « Oh, si, si !» murmura le supérieur. « Est-ce assez de misère, est-ce assez de blessures dans ton sein flétri ?» Pauvre nourrice, tu n'as plus de lait, et bientôt tu n'auras plus de sang à donner. Le vieillard conduisit Ciccio dans une cellule, et lui montrant une robe de l'ordre des... « Mets cet habit, dit-il, et si la police vient jusqu'ici, tu passeras pour un frère novice de notre couvent. » Tu habiteras cette chambre et tu suivras nos offices. Tu seras libre de nous quitter quand les troupes royales auront abandonné nos montagnes. Ne fais point de confidence aux autres frères. Moi seul, j'aurai ton secret. Et ma chèvre, demanda Ciccio, que deviendra-t-elle? Nous la mettrons dans l'étable où elle sera en pays de connaissance. Dans 1 heure, la cloche t'appellera au réfectoire. Donne-moi cette carabine, c'est un meuble inutile dans la maison de Dieu. Je te la rendrai à ta sortie. Le prêtre supérieur prit la carabine, emmena la chèvre et laissa Ciccio dans la cellule. Lorsqu'il fut seul, le petit chevrier jeta autour de lui des regards d'étonnement. Tous les objets qui meublaient sa modeste chambre de moine respiraient la piété, le recueillement et la solitude. Un jardin, à peine large de 10 pas et de plein pied avec la cellule, envoyait un parfum délicieux de roses et de fleurs d'oranger. Chaque cénobite du couvent avait ainsi son parterre clos de murs, dont il finissait par connaître et aimer jusqu'au plus simple brin d'herbe. Une bêche et un râteau posés dans un coin engageaient le novice à jouir de la récréation du jardinage. Le lit, un peu étroit, promettait à une conscience agitée de rappeler bientôt le sommeil avec les secours de la méditation, de la patience et du temps. Ciccio leva les yeux sur le crucifix attaché à la muraille, et le sentiment de la dévotion s'élevant dans son âme à la hauteur de son amour de ses regrets et de son désespoir, de grosses larmes coulèrent sur ses joues rondes, et il murmura une prière où le nom de sa maîtresse, celui de sa mère, les mots de vengeance, de fortune et de carthaginois se heurtaient ensemble. Lorsqu'il se fut habillé du vêtement claustral, un saisissement profond s'empara de lui. L'étrangeté du costume, les longs plis de la robe, donnaient à ses attitudes une solennité qu'il ne connaissait pas et dont la surprise n'était pas sans charme. Une organisation italienne eût peut-être cédé à l'envie de se fixer dans ce couvent. Mais Ciccio était sicilien, et à l'idée de reculer devant l'avenir effrayant que lui avaient fait ses passions, ses fautes et les injustices de ses ennemis, les larmes s'arrêtèrent au bord de ses paupières. Il étendit la main vers le crucifix en s'écriant « Ma mère dort sous les feuilles et son meurtrier est vivant. Ma maîtresse compte sur mon amour et ma constance. Pas encore, Seigneur, je ne puis pas être à vous aujourd'hui. » Chapitre 11. Palerme jouit du privilège de ces beautés parfaites qui peuvent se montrer à toute heure du jour et dans toutes les toilettes imaginables. Le voyageur qu'il aperçoit au loin du pont d'un navire ou des collines de Gliastro s'écrie, comme le prince Calaf au moment où Turandot soulève son voile, « Oh bellezza, oh splendor !» On la citerait parmi les merveilles du monde si elle n'était effacée par une rivale plus magnifique et plus illustre, Constantinople. Notre ami Ciccio avait échappé sous son déguisement aux moines de moines aux perquisitions de la police. Le bon supérieur qu'il avait pris en amitié s'était efforcé de le consoler de ses peines. Après la retraite des troupes royales, deux frères servants, guidés par Ciccio, vinrent sur le lieu du combat retirer le corps de Barbara des broussailles où il était caché. On enterra la vieille montagnarde dans le cimetière du couvent et une messe fut célébrée dans la chapelle pour le repos de son âme. Cependant, l'ennui et le besoin d'affronter son destin avaient bientôt rendu la vie monacale insupportable au petit chevrier. Il avait redemandé sa carabine et sa chèvre et s'était mis en route avec la bénédiction du Père supérieur. Après 4 jours de marche, Ciccio reconnut du haut des montagnes de Piana dei Greci la blanche Palerme assise au bord de la mer comme une odalisque endormie. C'était le soir. Le soleil dorait encore les sommets du Mont Reale, la grotte de Sainte-Rosalie et les tourelles du fort de la Garita. Les formes bizarres et gothiques de la citadelle de Castellammare se dessinaient en noir sur le couchant embrasé. Les églises de la ville saluaient la fin du jour par des carillons harmonieux, car tout est voluptueux à Palerme, même le son des cloches. Quand la nuit fut venue, Ciccio fit son entrée dans la rue de Tolède par la porte de Charles Quint. Il ouvrit de grands yeux en voyant ce monument étrange et ces figures colossales qui représentent les chefs-d'œuvre barbaresques vaincus par le puissant empereur. L'architecture arabe de la cathédrale inspira au petit chevrier un étonnement profond. Lorsqu'il se trouva dans le centre de Tolède, au milieu de la fourmilière des passants, devant ses cafés splendides, ses boutiques illuminées, ses palais ornés de larges auvents dont la brise agitait les festons, notre héros se crut plongé dans un rêve délicieux. La variété des costumes donnait à la ville un air de fête, car Ciccio ne connaissait d'autre mode que les haillons syracusains et les dominos noirs de Catane. Il eût pris volontiers toutes les femmes pour des princesses et les hommes pour des grands seigneurs allant au bal. L'éclat des lumières et le roulement des carrosses l'étourdissaient, si bien qu'il oublia les sages conseils de son don Folifemme, et il parcourut le beau quartier des quatre cantonies en conduisant sa chèvre par la crinière. Le hasard et la curiosité lui servant de guide, Ciccio arriva, sans savoir comment, au bord de la mer. Les pêcheurs et les matelots, assemblés sur le môle, écoutaient les conteurs d'histoire pour se reposer les travaux de la journée. Le peuple de Palerme, plus romanesque et moins poète que celui de Naples, préfère les contes merveilleux et les récits de voyage au charme des vers. Le Napolitain ne se lasse jamais d'entendre le 16e chant de la Jérusalem du Tasse. Les amours et la délivrance de Renaud ont l'avantage de l'émouvoir depuis 3 siècles. De là vient que ces orateurs de place publique ont reçu le nom de Rinaldi. Le palermitain demande plus de variété. Il tient moins à la perfection de la forme qu'à l'intérêt du sujet. Et pour cette raison, les orateurs de Palerme s'appellent contastorie. Ciccio s'approcha d'un parleur dont l'auditoire nombreux attestait le talent et la vogue. Un vaste cercle de pêcheurs assis à terre écoutait la nouveauté du jour. Le conteur montait sur une pierre, la face tournée du côté de la lune, déclamait à haute voix, en faisant une quantité de gestes et force réflexion superflues. « Mes gentils hommes, disait l'orateur, lorsqu'on vous raconte un fait surnaturel où figurent les magiciens et les fées, on ne manque jamais de vous dire que l'aventure remonte aux temps les plus reculés. Celle-ci n'est point une histoire des siècles passés. Elle n'a pas plus de 8 jours et les personnages en sont vivants. Un témoin qui arrive du lieu même de la scène vient de m'en fournir les détails, et il se peut que bientôt de nouveaux événements m'obligent à faire une suite à ce récit terrible et véritable. Comme je vous le disais donc, le diable se présenta devant le jeune chevrier de Syracuse sous la forme d'une chèvre jaune, et il lui tint à peu près ce discours. « Si tu veux signer ce papier avec ton sang, considère les grands bénéfices dont tu jouiras jusqu'à ta mort. Aucune arme meurtrière, depuis le mousquet jusqu'au couteau, ne pourra entamer tes chairs. En un mot, tu seras invulnérable. Mais, comme la vie n'est rien sans la liberté, il n'y aura ni corde qui puisse lier tes mains, ni muraille de prison qui ne te puisse enfermer. Je t'accompagnerai partout, et si tu viens à tomber dans quelque embûche, je t'emporterai sur mon dos et te mènerai où tu voudras, en voyageant dans les airs. Tu ne manqueras jamais d'argent, car tu auras en moi une compagne savante et bien avisée qui prédira l'avenir, guérira les malades et fera pleuvoir plus d'écus dans ton escarcelle que tu n'en pourras porter. Que désires-tu encore? Ah, je le devine. On ne vit pas heureux sans amour. Je te promets que pas une jolie fille ne te verra d'un air d'indifférence. Tu donneras en tout lieu un démenti formel à notre proverbe sicilien. Une belle femme se reconnaît à son orgueil. La plus fière et la plus humble se prendront comme de pauvres poissons dans tes filets. Si bien donc, poursuivit le Constastorie, que le jeune chevrier, ébloui par des offres si séduisantes, se laissa piquer une veine du bras et signa de son sang le traité infernal. Le lendemain, il quitta son village et descendit du mont Losso dans la plaine. En se promenant au bord de la mer, il passa devant un magnifique palais qui appartenait à un notaire riche comme Crésus. À peine la fille de ce notaire eut-elle aperçu le chevrier par la fenêtre de sa chambre, qu'elle en tomba éperdument amoureuse. La charmante Angelica, oh, c'était son nom, plus belle que Vénus et plus modeste que Vesta, n'hésita point à déclarer sa passion à l'heureux chevrier. Elle introduisit le jeune homme dans le palais de son père et l'accabla de présents, de caresses et de friandises, préparant de ses mains divines les pâtes au fromage, la ricotta et la citrouille grillée dont elle régalait son bien-aimé. Il aurait pu vivre ainsi dans la joie et l'abondance, le fortuné chevrier. Mais la chèvre jaune lui souffla tant de mauvais conseils que l'ingrat résolut d'abandonner sa maîtresse, et il la laissa en effet demi-folle d'amour et de douleur. Pour comble d'horreur, le monstre eut la bassesse de dérober à cette aimable fille l'épingle d'argent qu'elle portait dans ses cheveux, la boucle de sa ceinture garnie d'émeraude, ses bagues et ses pendants d'oreilles. À ces paroles du constatore, un murmure d'indignation s'éleva dans l'auditoire. « Oui, mes gentils hommes, reprit le narrateur, c'est ainsi que le chevrier, mal conseillé par le diable, répondit au témoignage de tendresse d'une fille adorable. Cependant, le père de la belle Angelica se plaignit à la justice. Un ordre d'arrêter le voleur fut lancé contre lui. Les gendarmes s'emparèrent de sa personne. On lui lia les mains avec des cordes et une compagnie de 100 hommes armés jusqu'aux dents le conduisit avec sa chèvre maudite à l'intendance de Notto. Le capitaine Napolitain, qui sentait l'importance de cette capture, surveillait le prisonnier et le suivait pas à pas, tenant à la main son pistolet afin de tuer le coupable sur la place s'il tentait de s'enfuir. Mais le diable veillait sur son protégé et tout à coup, les cordes se rompent. Le chevalier saute sur le dos de sa chèvre, s'envole avec elle bien au-dessus des nuages et disparaît comme une ombre. À quelques jours de là, des voyageurs anglais, en passant dans les montagnes de Leonforte, furent attaqués par des brigands qui s'emparèrent des bagages et laissèrent les pauvres voyageurs tout nus au milieu d'une forêt. Les troupes royales se mirent à la poursuite des voleurs. Une bataille effroyable eut lieu dans les environs de Nicosia. Les soldats de Naples furent mis en déroute, et pendant le carnage, on vit la chèvre jaune, coiffée d'un casque d'or, danser sur la pointe d'un rocher en animant les brigands de combat. « Par ma foi, interrompit un pêcheur, c'est une brave chèvre, et si elle n'avait pas commis d'autres crimes, je lui donnerais l'absolution. » « Mais hélas, reprit l'orateur, la chèvre jaune et son damné conducteur ont commis des crimes bien plus affreux. » La pauvre Angelica, tout à fait folle d'amour et de douleur, pleurait comme Marianne abandonnée. De ses beaux yeux coulaient des flots de larmes à faire déborder la nappe. Alors, n'écoutant plus que son désespoir, elle quitta son père pour courir après son infidèle amant. Oh, lamentable histoire! Oh, fatal exemple des maléfices du démon! La fille d'un riche notaire s'enfonça toute seule dans les montagnes sans connaître son chemin. Les ronces et les épines déchiraient ses pieds délicats. La soif et la fatigue l'accablaient, et sans doute elle allait périr dans le désert si son bon ange l'eût amenée sous un ombrage frais au bord d'une fontaine. La Madone, qui veillait aussi sur elle du haut des cieux, conduisit au même endroit le chevrier avec sa bande féroce. L'infidèle amant, touché de compassion, prend sa maîtresse dans ses bras et lui jette sur le visage quelques gouttes d'eau fraîche. Elle ouvre ses beaux yeux et, reconnaissant son amie, Apprends, lui dit-elle, que tu avais abandonné deux personnes au lieu d'une, homme barbare. Je suis mère. Mais c'est une imposture, s'écria Ciccio en s'élançant dans le cercle des auditeurs. Jamais je n'ai abusé de la tendresse d'Angelica. Son innocence est aussi pure qu'au jour de sa naissance. Quant aux sottises que vous osez débiter publiquement au sujet de ma chèvre savante, je déclare en présence de ces honnêtes pêcheurs que ce sont autant de mensonges et de calomnies dont je vous ferai repentir. Le contastorie, monté sur sa pierre, demeura stupéfait, les bras étendus, la bouche ouverte et les yeux fixés sur le héros de son histoire. À la vue de la chèvre jaune, l'assemblée se dispersa et Ciccio se trouva seul en face du narrateur. Au cri d'effroi que poussaient les pêcheurs, quelques douaniers s'approchèrent. Un éclaircissement aurait pu mal tourner pour notre héros. Une lourde main posée sur son épaule vint à propos lui rappeler le danger auquel il s'exposait. Ciccio reconnut Maître Ignace, le lieutenant de la bande de voleurs. « Jeune homme, lui dit le brigand, tu songeras demain à ta réputation compromise. Suis-moi, si tu ne veux pas coucher en prison. » Et en parlant ainsi, Maître Ignace prit la fuite. Ciccio le suivit en courant, et ils s'enfoncèrent dans le faubourg appelé Borgo, où demeurent les Bonaccini. La population de ce beaufour n'a pas l'humeur facile des Lanzaroni de Naples. Le mélange du sang mauresque lui a inoculé les passions et le caractère espagnol. Le Lanzarone est majestueux dans ses poses comme un empereur romain, mais au-dedans la dignité fait défaut. Tandis que la fierté du Bonaccino de Palerme existe dans son âme comme dans sa contenance. Il ne menace pas deux fois son ennemi avant de le frapper. La jalousie le mène loin, aussi est-elle considérée souvent par les tribunaux comme une excuse. Après avoir fait 1000 évolutions à travers le dédale du Borgo, Maître Ignace entra enfin dans le cabaret del Falcone, dont Polyphème s'y trouvait avec ses acolytes. Comme leur toilette de brigand n'eût pas été de mise dans une ville où il existait une police, ils avaient quitté leurs armes et leurs vêtements de fantaisie pour prendre la Bonacca, d'où les pêcheurs palermitains ont tiré leur nom. Messieurs les voleurs tenaient conseil dans une salle particulière du cabaret dont la porte s'ouvrit pour Ciccio. La réunion était fort nombreuse et le petit chevrier, voyant une quantité de visages inconnus, se tenait modestement à l'écart. Don Polyphème le prit par la main et le présenta aux voleurs de la ville qui posaient les bases d'une association avec ceux des grands chemins. « Approche, mon ami, dit Polyphème. J'ai parlé de toi au seigneur Zeffirino et au seigneur cavalier dont il est le chef. Ta chèvre savante est un bijou dont la valeur est appréciée. Tu es mon ami, et si je deviens l'ami du seigneur Zeffirino, tu seras du même coup l'ami de tous ses amis réunis. » Don Zeffirino souriait de la rudesse du brigand campagnard, en homme pénétré de sa supériorité. Il daigna jeter un regard d'indulgence sur le petit chevrier. « Mon garçon, dit-il à Ciccio, tu as l'air intelligent et les talents que tu as su donner à ta chèvre jaune seront utiles à notre compagnie si nous nous accordons avec ton capitaine. Mais il convient d'abord de discuter les conditions de cet accord. Écoute bien ce que nous allons dire et fais-en ton profit. Le chef des voleurs citadins était un beau jeune homme, de manière douce, qui affectait autant d'élégance dans son langage que dans sa mise. On le reconnaissait à perte de vue pour une personne du grand monde, car il portait l'habit à longs pans, en velours de coton, le gilet à boutons d'or et le pantalon en poil de chamois, le tout à la façon de Paris, mais d'une coupe un peu romantique. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel brillaient dans sa toilette, et il ressemblait assez à une gravure du journal des modes, enluminée par un enfant. Ce luxe et cette recherche exerçaient un ascendant remarquable sur l'assemblée. Chichio, en examinant cet homme si riche, conçut une haute opinion des voleurs de la ville. Il partageait ses regards d'admiration entre les breloques de similor et les soupirs du personnage. Polyphème ne lui paraissait plus qu'un mal appris. Le petit chevrier se retira donc, tout ébloui, dans un coin de la salle, et prêta au discours de Don Zeffirino une oreille aussi attentive que si ce filou eût été le sage Nestor ou le divin Minos. Chapitre 12. Tandis que Ciccio était perdu dans la contemplation des breloques de clinquants et des soupiers du voleur de ville, le très illustre seigneur Zeffirino, unissant le pouce et l'index de sa main droite couverte de bagues, adressait à Don Polyphème ce raisonnement plein de logique. « Que votre seigneurie, disait-il, me fasse l'honneur de m'écouter. Dans toute entreprise, une juste balance doit mesurer parmi les associés les services que chacun rend à la communauté avec la part qui lui revient dans les bénéfices. Je ne refuse point de vous admettre au partage égal avec les cavaliers que je commande, si vous réussissez à me prouver que vos gains sont aussi considérables que les nôtres. Mais je vois avec peine que votre société ne tient pas de registre de ces opérations. Vous ne m'offrez par conséquent que des suppositions, des probabilités et des évaluations approximatives au lieu de calculs certains. Vos captures sont importantes, j'en conviens, mais elles sont rares. Vous n'avez pas tous les jours des Anglais à dévaliser. Le vice de votre industrie est précisément ceci, qu'une opération avantageuse entraîne des suites funestes et que vous êtes obligé de vous cacher ou de changer de place lorsque vous avez fait une heureuse rencontre. Nous autres, au contraire, nous travaillons toujours dans les mêmes lieux et nous finissons par en connaître toutes les ressources. La ville nous fournit un revenu constant. Nous ne chômons jamais. Si nous partageons en frères avec vous, ce sera donc une avance de fonds sur les services à venir, car vous êtes aujourd'hui sans emploi. Il faut que vous consentiez à exercer avec nous à la ville. Et par un juste retour, nous vous donnerons un coup de main sur les grandes routes lorsqu'il en sera besoin. Plusieurs articles de notre industrie sont praticables pour vos seigneuries. Ceux des vengeances, des jalousies, guet-apens, coups de bâton et effusions de sang ne vous sont pas étrangers. Je ne vois pas pourquoi vos seigneuries ne se livreraient pas dans l'intérêt général à cette branche de notre commerce. Pendant ce discours, Don Polyphème tirait sa barbe et ses moustaches d'un air d'impatience. « Ce n'est pas, répondit-il, la science ni l'habileté qui nous manque, mais bien la volonté de couper des jarrets au coin des rues. Nous avons tous pratiqué la vengeance et le guet-apens pour notre compte et non pour de l'argent. Si les gens de la ville n'ont pas le courage de tuer eux-mêmes les amants de leurs femmes, tant pis pour eux. Je ne veux point me charger de cette besogne-là. Vous ne savez pas, reprit Zeffirino, l'utilité de cette industrie. Ce n'est pas tant l'argent que la considération et les bons procédés qu'on y gagne. Du temps de nos pères, ces services-là étaient d'un immense profit. Le coup de stylet se payait 500 ducats, et la simple taillade au visage, 25 piastres fortes. Oh, aujourd'hui, on défigure un homme par une balafre de 12 points pour la bagatelle de 6 ducats. Mais en obligeant les jaloux, on se fait des amis. Prête-moi un doigt de ficelle et je te rendrai un bras de corde, dit notre proverbe. Service pour service, et c'est ainsi que nous trouvons de l'indulgence dans les cas malheureux, des yeux fermés où il serait funeste de les voir s'ouvrir, et la potence vouée au célibat quand nous lui fournissons sans occasion de nous demander en mariage. Tandis que vos seigneuries, vivant dans les bois, n'ayant point d'amis, ne rencontreront jamais que des soldats armés, une police intolérante et des juges sévères. Mais je confesse que cela est inconsidéré, dit Polyphème en se grattant la tête. Notre société, reprit Zeffirino, est admirablement constituée. L'ordre le plus parfait y règne. Jetez les yeux sur ma comptabilité. Vous y verrez que la rue de Tolède seule nous fournit en mouchoirs de poche, bourses, montres et autres objets portatifs la somme de 320 ducats par semaine. À moins que par mégarde nous ne volions un abbé, on ne nous inquiète jamais pour ces petites opérations. Les vols dans les maisons de campagne non habitées ne nous attirent pas non plus de désagréments. Ceux à main armée ou par escalade et à la ville donnent lieu à des poursuites aussi dans les exécutions qu'à de longs intervalles et quand nous avons pesé le pour et le contre. Regardez à la page des articles de galanterie et vous serez flatté du total imposant des produits de la semaine. Quant au chapitre des meurtres, blessures et taillades, ne vous en faites pas un monstre. Ce sont des choses rares et le plus souvent des actes de bonne justice. Je vais vous en citer un exemple. Un seigneur marquis de Selleville a épousé l'an dernier une demoiselle de la bourgeoisie et pour les beaux yeux de cette jeune fille, il lui a donné avec sa main 60 000 ducats de rente. Ce ménage, béni par l'amour, jouissait d'un bonheur sans mélange. Mais il n'est pas de félicité durable en ce monde. Depuis 3 mois, un voyageur étranger a troublé le repos du mari en inspirant à la femme une passion qu'elle n'a pu vaincre. Le seigneur marquis, justement irrité, s'est retiré à Naples en déclarant qu'il reviendrait auprès de la marquise lorsque son honneur serait vengé d'une manière ou d'une autre. Or, la fortune appartenant au mari, la femme se trouve réduite à une maigre pension alimentaire. Les parents de la marquise ont résolu de satisfaire l'époux offensé afin de l'obliger à un rapprochement. Ils sont venus me trouver ce matin même, et ils m'ont dit en pleurant, « Seigneur Zeffirino, secourez-nous. Voilà des époux brouillés, séparés pour la vie. Voilà un scandale public, une maison entière dans les querelles et dans les larmes. Vous seul au monde, vous pouvez rendre au mari le contentement, à la femme sa position et sa fortune, et à nous la paix que nous avons perdue. Nous ne sommes pas riches, mais nous ferons sans hésiter le sacrifice de 6 piastres, car nous savons que c'est le prix du tarif pour obtenir le retour de notre gendre et beau-frère bien-aimé. Faites administrer à cet étranger qui cause tous nos malheurs une simple taillade au visage et vous aurez droit à nos bénédictions. Un homme n'est pas perdu pour avoir une balafre sur la joue, et puisque le mari borne sa vengeance à si peu de choses, on doit encore se louer de sa modération. Qu'auriez-vous répondu si vous eussiez été à ma place, je vous le demande ? Barbacus, s'écria Don Polyphème, j'aurais répondu, donnez-vous même un coup de stylet ou une paillade à votre ennemi, je ne frapperai pas un homme qui m'a point offensé. Mais oui, je vois bien que j'aurais fait une faute en répondant ainsi. Une faute capitale, seigneur cavalier, reprit Don Zeffirino. Moi, qui sais mon monde ? J'ai répondu au contraire qu'on pouvait écrire à l'époux offensé de revenir auprès de sa femme et qu'avant le soleil de demain, son honneur serait vengé. Il le sera dès ce soir, non pas en considération du salaire, mais parce que nous compterons désormais deux familles entières parmi nos amis les protecteurs. Vous êtes un habile homme, dit Polyphème en s'inclinant. Je commence à goûter votre système. C'est de la fleur de politique. Je n'ai plus d'objection à faire et je suis prêt à pratiquer votre industrie dans l'intérêt général. Eh bien, je vais vous en fournir l'occasion. Pour administrer la taillade en question, j'ai besoin d'un compère. Le jeune étranger doit passer ce soir à 10 heures par la porte Felice en revenant du jardin de la Flora où il est en ce moment. Votre petit Ciccio, dont je fais grand cas, se trouvera par hasard devant cette porte et dansera la saltarelle avec sa chèvre prodigieuse. Nous lui composerons un cercle de spectateurs. L'étranger ne manquera pas de s'arrêter. Et je me charge du reste. La taillade sera donnée en moins de temps qu'il n'en faut pour prononcer notre mot d'ordre, Ave Maria. Tu as entendu, Ciccio, dit Polyphème. Tout à l'heure, tu vas entrer en fonction. L'édifiante conversation que notre héros venait d'écouter était de l'hébreu pour lui. Ces enfantements de la civilisation dépassaient les bornes de ses faibles connaissances. Il comprit vaguement qu'on allait employer ses services et les talents de l'innocente Guetta dans un attentat contre la personne d'un étranger, mais il ne devina pas toute la gravité de l'expédition. Le mot de vengeance qu'il avait remarqué dans ce discours lui avait rappelé sa vieille mère dont l'âme irritée demandait du sang. Ceux de guet-apens et de taillade sonnaient moins agréablement à son oreille novice. Mais lorsqu'il vit Don Polyphème revenir de ses scrupules, il jugea qu'apparemment l'homme aux sous-pieds avait puisé dans la raison et la morale une bonne récompense, réponse à ce cas de conscience. Ciccio suivit donc machinalement l'opinion de son capitaine et déclara qu'il était prêt à obéir au commandement. Don Zeffirino lui caressa le menton d'un air de protection affectueuse, lui fit compliment de sa jolie figure et lui promit l'avenir le plus brillant. Le chef des voleurs citadins regarda ensuite l'heure à sa montre d'argent. « Il est temps, dit-il, de nous préparer à notre petite opération. Que chacun de vous soit à la porte Felice dans un quart d'heure. Vous vous y rendrez par des chemins divers. Maître Ignace conduira le jeune Ciccio et sa chèvre. Le bicco, le louche. Ira monter la garde à la Flora pour y épier l'étranger et nous avertir de son approche. Aussitôt après le coup, éparpillez-vous comme des bouches. Où donc est mon temperino ? Sang de la Madone, je n'ai pas mon temperino. » Don Zeffirino fouilla dans toutes ses poches et il en tira enfin une espèce de scalpel à manche de corne, parfaitement aiguisé. « Ah, le voici, reprit-il, je l'ai trouvé. Vous voyez, seigneur Polyphème, que cet ustensile n'a rien de terrible. C'est une pièce fine à mettre sur la toilette d'une petite maîtresse. Venez avec moi. Je vous donnerai le divertissement d'une taillade lestement servie. » Le seigneur Zeffirino prit le bras de Polyphème et l'entraîna hors du cabaret. Maître Ignace emmena Sitcho. Les autres voleurs sortirent un à un et toute la bande peu chrétienne se répandit dans les rues tortueuses du Borgo. De 8 à 10 heures du soir, le beau monde de Palerme vient habituellement respirer la brise de mer au joli jardin de la Flora et sous les tulipiers qui bordent le rivage. Une estrade est élevée au milieu de la promenade publique pour la musique de la garnison. Les équipages, les toilettes et la beauté remarquable des femmes de Palerme font de cette promenade un lieu de délices où les œillades et la galanterie vont grand train, car le climat de la Sicile met l'amour en possession de toutes les cervelles. La soirée était magnifique. Du haut du Cap Zafferano, la lune pleine et brillante répandait sa lumière argentée sur le feuillage verni des orangers. La musique jouait des morceaux extraits des opéras de Bellini, ce maestro charmant que la Sicile est fière d'avoir produit. Il était 9h30 lorsque Ciccio vint s'installer avec sa chèvre savante près la Porte Felice. Les brigands ne tardèrent pas à paraître. Ils arrivaient l'un après l'autre par des rues différentes et feignaient de ne se point connaître. Un cercle nombreux se forma autour du petit chevrier et Don Zeffirino fit signe à notre héros de commencer la représentation. Le pauvre Ciccio prit ses castagnettes et se mit à danser la saltarelle. Mais il n'avait pas sa souplesse accoutumée. Sa respiration était brève et son cœur tout gonflé. Quant à l'innocente Guetta, comme elle ne se doutait point des mauvais desseins des brigands, elle dansait de bonne grâce et les applaudissements ne lui manquaient pas. À 10 heures, la foule des curieux diminua. Quelques promeneurs nonchalants s'arrêtaient à regarder la chèvre jaune par-dessus les épaules des voleurs et rentraient ensuite dans la ville par la rue de Tolède. Ciccio se troublait davantage à mesure que l'instant fatal approchait. Parmi les spectateurs, il aperçut les gros traits de Don Polyphème, bouleversés par l'inquiétude. Le petit chevrier commençait à comprendre qu'il se perdait à demeurer parmi ces coquins. Cependant, il n'y avait plus à reculer. Bientôt arriva le bandit appelé Biocco, précédant de quelques pas un jeune homme qu'on reconnaissait à son air pour un Français. Le signor au sous-pied tira doucement de sa poche le tamperino. Tout à coup, l'un des brigands heurta violemment l'étranger, comme par maladresse. Ciccio vit la main ornée de bagues de Don Zeffirino passer rapidement devant le visage du jeune homme. Il entendit un cri perçant et une imprécation prononcée dans une langue qu'il ne connaissait pas. En un moment, la troupe entière des spectateurs s'évanouit et Ciccio se trouva seul en face d'un homme couvert de sang.